en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, monsieur le directeur de l'Académie française, chers confrères, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'installation de Gilbert Ami, élu le 6 mars 2013, membre de la section de composition musicale de notre Académie, au fauteuil précédemment occupé par Serge Nigue. La parole est à monsieur François Bernard Mache.
Le 10 juin 1958 est une date dont l'importance très relative m'avait échappé, jusqu'à ce qu'à l'occasion de ce discours, j'ai à rechercher dans ma mémoire et mes archives de quand datait mon premier contact avec le compositeur que j'ai le plaisir d'accueillir. Gilbert Ami avait grimpé à l'étage supérieur de l'école normale, elle-même réputée supérieure, pour m'emprunter un objet encore peu répandu dans le milieu musical, du collant pour bande magnétique. On lui avait signalé que je devais détenir ce précieux accessoire puisque je travaillais régulièrement au studio de Pierre Schaeffer. Réveillé en sursaut, je crois avoir pu alors opérer ce dépannage, sans doute urgent. Et lorsque, 2 semaines plus tard, j'ai revu Gilbert Ami au musée Guimet à l'occasion d'un concert d'Oustad Vilayat Khan, j'ai pensé qu'il partageait non seulement mon intérêt pour les technologies de l'enregistrement, mais aussi ma curiosité pour des cultures musicales encore largement méconnues. Effectivement, tout en étant proche de Pierre Boulez et de l'avant-garde la plus active, Ami participait à l'intense ouverture des oreilles vers le monde nouveau, de sons inouïs et à peu près incontrôlables, et des musiques à peu près inconnues. Il avait alors 22 ans. 10 ans plus tôt, il avait commencé son apprentissage musical sans d'abord s'imaginer professionnel. Sa famille lui avait donné l'occasion de ressentir au concert du dimanche quelques émotions fortes, en particulier avec la symphonie fantastique de Berlioz et les romantiques en général. La Turangalila symphonie de Messiaen ou le Soleil des eaux de Boulez n'avait pas eu le même impact vers 1951. C'était plutôt la musique d'Honegger qui attirait le très jeune auditeur. En se remémorant ses années adolescentes, il a dit modestement « J'étais quelqu'un de plutôt lent, de pas extrêmement doué. » Veuillez relativiser cet aveu. En 1954, le lycéen Gilbert Ami remportait le premier prix de philosophie au concours général. Et la même année, il s'essayait à composer une pièce pour orgue, désormais retirée de son catalogue. Mais avant que sa vocation musicale ne s'affirme, il avait pu se rêver architecte, tout en observant que architecte et musicien, ce n'est pas si éloigné que ça. C'est au contact de Michel Fano qu'il a été réorienté vers Messiaen, Webern, puis à partir de 1954-55, vers le théâtre du Petit Marigny, où les concerts du domaine musical rassemblaient tout ce que le monde musical comptait de modernité militante. Dès lors, adieu l'empirisme de la bande magnétique, ravalé sous l'autorité de Boulez au rang de bricolage. Ami déclare en 1967 « Je ne suis pas de ceux qui composent avec des sons, je compose avec un langage, et pour des instruments dont le son est en quelque sorte rendu abstrait par la notation, et je crois que les deux choses ne sont pas incompatibles. » Et comme par ailleurs il juge qu'un artiste sans métier, c'est peut-être au mieux un esthète, il va se doter du plus solide métier afin de participer à l'entreprise néo-sérielle. Celle-ci développe l'idéal autrefois défendu par Schoenberg, conserver le modèle du langage pour guider l'art de composer, mais en remplaçant le langage tonal épuisé par un nouvel idiome arbitraire dont on invente simultanément le vocabulaire et la syntaxe. Il neutralise les accidents sensibles pour pouvoir manipuler des unités abstraites et inscriptibles. Il ne manque à cette combinatoire ou cet espéranto que la sémantique, mais ce manque ne deviendra évident que plus tard, car la polysémie du discours musical a toujours été considérée comme sa richesse propre et a empêché que son indétermination paraisse rédhibitoire. Avec l'enthousiasme de la jeunesse, Ami, comme beaucoup d'autres jeunes compositeurs, adhère à cette aventure. Il déclare avec une distance critique en 1996 « Nous étions secoués par une idéologie technicisante qui nous permettait de respirer. Nous pensions que hors de cette église-là, il n'y avait point de salut. Bien évidemment, il fallait aller vers le sérialisme intégral. Et tout ce qui allait dans ce sens-là était salué par un grand applaudissement. Les autres étaient forcément des ringards. Ceux qui ne passaient pas par ce parcours n'étaient pas, selon moi, dignes du nom de compositeur. À l'été 1958, j'étais comme lui présent à Darmstadt, dans le sanctuaire de l'église néo-sérielle, et je posais alors sur Cage, Boulez, Stockhausen ou Nono un regard assez différent. J'étais donc déjà, avec Xenakis également présent, un de ces prétendus ringards. Le métier, Ami va l'acquérir au sommet, c'est-à-dire au Conservatoire de Paris, où il étudie la fugue auprès de Simone Plekhossade, l'accompagnement avec Henriette Puch-Roget, la philosophie de la musique avec Olivier Messiaen et la composition dans la classe de Darius Milhaud. À titre privé, il travaille aussi le piano avec Yvonne Loriot. En 1955, sa première œuvre est une pièce pour soprano et piano sur 5 poèmes de Louis Parot, « Œil de fumée », qui est créé en juin 1956. C'est grâce à cette partition qu'il a été admis dans la classe de Darius Milhaud. Elle inaugure et illustre une attirance pour l'art vocal que la suite devait confirmer. Pianiste, il compose à partir de 1957 une sonate pour piano qui a suffisamment attiré l'attention de Boulez pour qu'il lui donne des conseils de composition et qu'il lui commande les mouvements pour 17 instruments qui sont créés par l'ensemble du domaine musical à la fin de l'année 1958, sous la direction de Bruno Maderna. Il joue lui-même sa sonate à Darmstadt en juillet 1960, et l'année suivante, elle sera interprétée par Yvonne Loriot. L'exemple de Boulez n'induit pas seulement chez Gilbert Ami des choix esthétiques, mais aussi de carrière. Comme le jeune maître avait acquis l'expérience de la direction d'orchestre en travaillant pour le théâtre avec Jean-Louis Barrault, Ami développe son apprentissage dans une démarche parallèle qui fait partie de ce qu'il considère comme une sorte de parcours initiatique. De 1957 à 1967, il compose une dizaine de musiques de scène pour accompagner Ionesco, Kateb Yassin, Calderon, Max Fritsch ou Sophocle, et deux musiques de films dont l'une, intitulée « Images du monde visionnaire », accompagne un court-métrage d'après « Misérable miracle » de Henri Michaud. En général, le théâtre ne le conduit pas à changer son écriture et surtout pas à l'affaiblir par des concessions si fréquentes dans ce domaine. Toutefois, pour Calderon, il lui ajoute quelques touches suggérant l'époque de la pièce et, lors de sa collaboration avec Ionesco, il prend en compte le désir qu'avait exprimé l'auteur d'entendre un timbre proche du sona, le hautbois chinois. Mais peu désireux d'employer un instrument exotique, c'est sur une contrebasse, grâce à divers artifices, qu'Ami obtient l'évocation souhaitée. Pour ses diverses options et pour ses brillants débuts, dès la décennie 60, Ami est souvent considéré comme l'héritier ou le dauphin désigné de Pierre Boulez. En 1963, nous avons eu deux occasions d'échanges répétés, un projet de disque, Hadès, et surtout une courte et vive polémique esthétique. J'étais alors chroniqueur musical au Mercure de France, qui avait fait paraître en novembre 1963 un article que j'avais intitulé « Le son et la musique ». J'y défendais une pratique de modélisation de modèles sonores naturels qui a eu le malheur de susciter l'agacement de Gilbert Ami, dans la mesure où je contestais la nécessité de leur neutralisation comme condition à leur emploi. Il l'a vivement critiqué dans la livraison de mars 1964 en déclarant qu'un son est en soi inerte et ne saurait donc être pris comme modèle d'aucune composition. Le mois suivant, j'avais rédigé un article encore plus ouvertement hostile aux positions de l'avant-garde officielle, qui de toutes parts se sentait désormais dépassée par d'autres tendances. 10 ans après le manifeste de Xenakis, je l'avais également intitulé « La crise de la musique sérielle ». Après en avoir renvoyé les épreuves corrigées, j'ai eu la surprise d'apprendre qu'il ne pouvait pas paraître et qu'il serait remplacé par un article de Pierre Boulez. J'ai évidemment claqué la porte, sans pour autant attribuer la manœuvre à mon adversaire occasionnel. Heureuse époque où un directeur de revue s'investissait dans des querelles d'esthétique musicale au point d'utiliser la censure. Aujourd'hui, ce serait plutôt certains excès du pluralisme qui seraient à redouter dans le carnaval des références. Lors d'un séjour à Berlin, où il bénéficiait d'une bourse de la Fondation Ford en 1964-65, sa large culture s'enrichit encore au contact non seulement de Luciano Berio, mais encore d'esprits aussi ouverts que Michel Butor, l'écrivain passionné de musique, et Elliot Carter, le compositeur passionné de littérature. Tout en étant extrêmement exigeant en termes de métier, Ami ne faisait pas partie de ces musiciens qui ne sont que cela. Il restait alors fidèlement engagé dans l'esthétique que je contestais, et 3 ans plus tard, il succéda à Pierre Boulez à la tête du domaine musical, qu'il dirigea jusqu'à sa disparition en 1974, après avoir considérablement élargi ses perspectives esthétiques. Lorsqu'en 1971, j'ai réalisé avec lui un entretien pour la NRF, dont je tenais la chronique musicale, nous étions déjà plus sereins, sans rien renier de nos options fondamentales. Face à mes réserves sur le progressisme moderniste et à ma réévaluation des poids respectifs de la nature et de l'histoire, Ami énonçait clairement ses principes. Il disait « Je ne peux imaginer me servir d'un matériau que je ne maîtrise pas intellectuellement. Je pense qu'une forme donnée n'a de véritable réalité vivante qu'en un certain point de l'histoire musicale. » Et il concluait en affirmant « Pour moi, le discours n'est pas mort. » Les querelles esthétiques étaient loin d'accaparer toute son énergie. La direction d'orchestre lui valait des succès remarquables. En février 1963, il avait parfaitement dirigé la création de Mon Canzone 2 pour 5 cuivres. Allait-il consacrer la plus grande part de son temps à ce métier au détriment de la composition ? Il ressentit le danger et choisit de maintenir attentivement un équilibre entre ces deux activités principales. La musique de chambre connaissait alors une vogue particulière, en partie héritée de Webern. L'expérimentation d'associations insolites, dont le marteau 100 mètres de Boulez avait représenté une réussite sensationnelle, attirait les compositeurs. Les inventions d'Ami pour flûte, marimba, harpe et piano, en 1960 et 61, leur font écho. L'enjeu est de ne plus plaquer des timbres sur des notes comme on colorie un dessin d'abord réalisé en noir et blanc, mais de penser d'emblée le timbre comme une dimension au sens plein. En dehors de l'artisanat musical, on ne souhaite plus, on ne peut plus orchestrer, instrumenter un schéma dont le piano était traditionnellement le premier support monochrome. Cette évolution, depuis Debussy, conduit inévitablement à buter sur des contradictions. Entre une pensée qui veut traiter les dimensions sonores comme des paramètres, c'est-à-dire des unités homogènes, et des timbres qui ne se laissent pas ordonner selon un critère unique. On peut faire des échelles de hauteur, on peut essayer une arithmétique de durée comme Messiaen l'a tenté, on peut esquisser une échelle d'intensité, mais on ne peut pas organiser une échelle de timbre, parce que le timbre est une intégration subjective de données sonores dans lesquelles interviennent de façon complexe toutes les autres dimensions du son. L'émancipation du timbre échappe complètement à toute combinatoire rationnelle. Et jusque dans les musiques de variété, la prépondérance croissante des données de timbre au XXe siècle a signé l'affaiblissement ou même la disparition des éléments qui permettaient la grande métaphore du langage musical. C'est cependant avec l'orchestre, dont il maîtrise parfaitement les ressources et sur lequel il a conduit une réflexion théorique approfondie, que le talent d'Ami rencontre certaines de ses meilleures réussites. Au cours de sa carrière, il a dirigé, entre autres, l'Orchestre national, l'Orchestre de Paris, celui de l'Opéra, ceux de la BBC à Londres, de la NDR à Hambourg, de la Suisse romande, etc. Son intérêt va donc très au-delà du simple souci de présenter au mieux ses propres œuvres. Dans celle-ci, il essaie d'abord, à la suite de Stockhausen, d'organiser les pupitres en groupes espacés, comme dans Antiphonie pour deux orchestres en 1964 et Triade en 1965. Puis dans Trajectoire pour violon et orchestre en 1966, il renoue en la rénovant avec la formule du concerto qui avait plus ou moins été disqualifiée. En 1968, Chant, une commande du Südwestfunk pour grand orchestre, reprend quelques éléments d'antiphonie qui dataient de 1965 et surtout, l'œuvre rompt encore davantage avec la disposition classique des musiciens dans l'espace. Cette recherche sur l'espace comme dimension constitutive de l'œuvre et non seulement comme agrément à son exécution a connu à cette époque un développement considérable. Varèse, en 1923, avec Hyperprism, avait déjà rêvé cette évolution. Stockhausen, avec Gruppen et Carré, vers 1958, lui donne un retentissement durable. J'ai moi-même conçu Volume en 1960 pour 12 pistes réparties sur une sphère. Il est à noter que les expériences spatiales de Gilbert Ami vers la fin des années 60 sont contemporaines de celles de Xenakis dans Térétector et Nomos Gamma. Son œuvre orchestrale Chant se situe au moment où les positions sectaires et les conflits esthétiques commencent à se distendre et où les réalités sociales des pratiques musicales vont imposer, après mai 68, leur présence parfois envahissante, au détriment des théories qui proliféraient en musique depuis les années 50. L'espace s'impose comme réalité sensorielle et non plus seulement métaphorique. Gilbert Ami, dont la culture philosophique a depuis longtemps été confirmée et a nourri une réflexion personnelle exposée dans plusieurs articles importants, va peu à peu tourner davantage son attention vers ce que sa connaissance et sa pratique de l'orchestre lui suggèrent. Nommé conseiller musical à l'ORTF en 1973, époque où il compose d'un espace déployé pour soprano, deux pianos et deux groupes orchestraux, il imagine en 1974-75 la formule de la géométrie variable. Il s'agit d'adapter le stéréotype de l'orchestre qui date du siècle précédent aux besoins des pratiques musicales du XXe siècle. Pour cela, il faut inventer et négocier de nouvelles conventions collectives, ce qui, dans une société souvent très conservatrice comme celle des musiciens, ne va pas sans difficulté. Gilbert Ami, avec l'appui de Jacqueline Baudrier et de Pierre Wozlinski, réussit au début de 1976 à instaurer cette formule selon laquelle le nouvel orchestre philharmonique de Radio France a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Il en est le directeur pendant 6 années, au cours desquelles il le conduit dans différentes tournées et dirige plus de 100 concerts. C'est aussi dans cette période, en 1979, que le Grand Prix national de la musique vient confirmer sa stature de compositeur reconnu. En 1982, Gilbert Ami se tourne vers une nouvelle activité où sa culture et son expérience le conduisaient tout naturellement, l'enseignement de la composition et de l'analyse. C'est la prestigieuse université américaine de Yale qui lui donne l'occasion de cette nouvelle expérience en l'accueillant comme visiting professor. Depuis quelques années, un nouveau conservatoire supérieur a été créé à Lyon et sa direction a été confiée à l'organiste Pierre Cochereau. La disparition prématurée de ce directeur en mars 1984 conduit Maurice Fleuret à solliciter Gilbert Ami pour lui succéder. C'est ainsi que de 1984 à 2000, il applique son expérience d'administrateur et d'enseignant à une nouvelle carrière, parallèlement à sa création personnelle, et que de 1990 à 1998, il participera aussi à Lyon à l'enseignement de la composition. Dès lors, les honneurs se succèdent avec, en 1983, le Grand Prix musical de la SACEM, en 1987, le prix du disque de l'Académie Charles Cros, en 1988, le prix de la critique dramatique et musicale pour sa Misaku Myōbilo, et en 2004, le prix de la Fondation Cino del Duca pour l'ensemble de son œuvre. La Misaku Myōbilo, écrite de 1981 à 1983, a marqué un tournant significatif. Pour la première fois, il intégrait dans son style propre, sur près d'une heure, une écriture plus linéaire, inspirée en partie par la technique du plein chant, et très différente en cela de la marqueterie sonore caractéristique des années 60. Au total, l'œuvre de Gilbert Ami s'inscrit sur un éventail très large. On y rencontre des solos pour piano, saxophone soprano, flûte, orgue, violoncelle, guitare, harpe, marimba, alto. Des formations de musique de chambre très variées et parfois insolites, comme dans Jeux pour 1 à 4 hautbois, ou 3 interludes pour violon et 2 percussions. De nombreuses grandes œuvres orchestrales, parmi lesquelles Orchestral, dont le titre franco-germanique évoque résonance et rayonnement. Quelques incursions dans le domaine électroacoustique, d'abord limitées et prudentes avec Diaphonie dès 1962, mais plus affirmées dans Sept étoiles enseignent à s'incliner en 1970, Une saison en enfer en 1980 et La variation ajoutée de 1984. Les œuvres conçues pour le spectacle avec les musiques de scène et de films des années 50 et 60 avaient disparu au cours des décennies suivantes. Mais de 1996 à 1999, Gilbert Ami se consacre à un opéra en 4 actes, Le premier cercle, d'après Alexandre Solzhenitsyn, où s'épanouit son double talent de mélodiste et d'orchestrateur. Quelques 15 œuvres échelonnées sur 50 années illustreront cette prédilection affirmée pour les voix solistes ou chorales. La carrière de Gilbert Ami a reflété plusieurs des principaux épisodes qu'a traversé le monde musical français depuis qu'il y a fait ses débuts il y a plus de 60 ans. Il a alors d'emblée occupé une place de choix en compagnie de ce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on considérait comme l'avant-garde. Après les années militantes du néo-sérialisme, il a exploré diverses possibilités de ce qu'on appelait les formes ouvertes ou mobiles. Mais il s'est montré assez rétif à l'usage des sonorités inouïes de l'électroacoustique ou des instruments dévoyés. Ce terme faisait allusion aux diverses techniques qui dénaturent profondément le jeu et le son d'un piano lorsqu'il est préparé, ou la tessiture des vents et des cordes. La recherche de l'inouï pour l'inouï aboutissant trop souvent à des résultats insignifiants, Ami a en général préféré employer les instruments pour ce que leur longue histoire leur avait appris à produire, les syllabes et les lexèmes d'un langage dont la dimension principale combine des hauteurs. Quant à l'avant-garde, au lendemain de la crise de mai 68, elle a suivi une évolution plus ou moins parallèle à celle des révolutionnaires. Lorsqu'elle s'est aperçue que le corps d'armée ne suivait pas autant qu'elle l'avait espéré, elle a envoyé des éclaireurs dans toutes les directions, y compris le retour à la caserne. Ami ne s'est pas rallié à ce retour, et si j'ose filer la métaphore militaire, il ne s'est pas non plus laissé embrigader dans d'autres tendances à la mode. Ni les musiques industrielles, ni certaines survivances exotiques, ni la technologie informatique, ni même le jazz ne l'ont jamais beaucoup séduit. Quant aux musiques minimalistes, après la brève cure qu'elles ont opérée pour remédier aux excès intellectuels de l'écriture, elles semblent également l'avoir médiocrement affectée. En revanche, son contact prolongé dans le conservatoire qu'il dirigeait avec des musicologues et des interprètes, et aussi avec l'organiste et compositeur Xavier Darras, a accentué sa curiosité pour le courant de rénovation des musiques anciennes, en particulier de celles qu'on a un peu malencontreusement rebaptisées baroques, sans pour autant verser dans le néotonal ou le néomodal. Il y a trouvé des sources de réflexion utiles pour un compositeur contemporain. De là proviennent en partie, en 2005, une œuvre comme les Litanies pour Ronchamp, pour 8 voix, 2 chantres, quatuors à cordes et percussions, ou en 2011, Corps et cris, où il utilise les couleurs particulières de la gamme pythagoricienne produite par les harmoniques naturelles des deux corps. Éminemment représentatif de plusieurs aspects importants de l'histoire musicale contemporaine, Ami a su aussi y inscrire une expression personnelle, servie par une profonde connaissance des outils fondamentaux. C'est pourquoi nous nous réjouissons, cher Gilbert, de vous accueillir sous cette coupole où votre voix va maintenant retentir pour la première fois.
Mon cher confrère, je vous remercie. La parole est à présent à M. Gilbert Ami.
Chers amis, Serge Nigg est né le 6 juin 1924 d'une mère ukrainienne et d'un père d'origine écossaise. Une petite ville des environs d'Inverness, dans le nord de l'Écosse, porte d'ailleurs ce nom. Très tôt, c'est le piano qui l'attire et qui forme le musicien. Il a, paraît-il, improvisé devant Olivier Messiaen à l'âge de 14 ans, avant d'entrer, quelques années plus tard, dans sa classe d'harmonie, au retour de captivité du jeune maître à qui on ouvre tout grand les portes du conservatoire de la rue de Madrid. Les témoignages créatifs de cette période s'appellent Fantaisie pour piano, 1942, première sonate pour piano, suivie de 2 concertos pour le même instrument, 1945 et 1946, par la suite détruits par le compositeur. Il s'essaye aussi à l'orchestre avec Timour, 1943-44. À l'époque, les études musicales ne duraient pas des années comme aujourd'hui, pour se terminer par des licences ou des masters, et ni le besoin de venir réciter de laborieux catéchismes pédagogisants ou pseudo-culturels. Serge Nigue, à 22 ans, a déjà terminé l'essentiel. Il fréquente à présent René Leibowitz, compositeur et théoricien d'origine polonaise, qui enseigne la technique dite des 12 sons, hérité de l'enseignement de Schoenberg, son maître. Leibowitz est un homme de certitude, certains diront de rigueur, voire de sécheresse. Son enseignement privé sera suivi par les éléments les plus créatifs parmi les élèves de Messiaen, y compris Pierre Boulez, qui s'est exprimé à ce sujet maintes fois, sans aménité d'ailleurs. Serge Nigue déclarera, guillemets, « La grande idée était de retrouver un langage musical universel comme aux grandes époques de la musique baroque, classique et même romantique, avec une syntaxe rationnelle et une organisation logique du discours. » Il lorgnera aussi du côté des micro-intervalles, les intervalles plus petits que le demi-ton, en tout cas comme pianiste, où il figure à l'affiche d'une soirée à quatre pianos en quart de ton, consacrée au compositeur d'origine russe Ivan Vichnegravski. Nous avons de cette période militante une œuvre complexe, restée malheureusement inédite, les variations pour piano et 10 instruments, créées à Palerme en 1948 dans le cadre du festival de la SIMC. Certains la disent « première œuvre française écrite dans la technique dodécaphonique sérielle ». Serge Nigue évoquera son adhésion brève mais inconditionnelle à cette technique en la justifiant ainsi, guillemets, « il n'y a pire chaîne que celle d'une trop grande liberté ». Fermez les guillemets. Parallèlement, Roger Desormières crée, avec l'Orchestre National, son concerto de piano, cordes et percussions, le 13 février 1947, dans le cadre des concerts de la Pléiade, série prestigieuse animée par André Scheffner, où l'on avait pu entendre quelques années auparavant les trois petites liturgies de Messiaen. Coïncidence intéressante, à ce même concert figure la première audition en France de la cinquième symphonie d'un certain Prokofiev. Il serait urgent que la musicologie contemporaine ressuscite, si je puis dire, les œuvres instrumentales de cette période, auxquelles s'ajoute un cycle de mélodies sur des poèmes d'Éluard et même un oratorio, « Le fusillé inconnu » de 1949, sur un texte d'inspiration pacifiste. Cette même année 1949, Nigue adhère au PCF, Parti communiste français, sous l'influence, je crois, de son frère, ancien résistant. Je ne m'attarderai pas sur cet épisode, certes crucial, mais relativement bref, si on le rapporte à la vie créatrice du compositeur qui s'étale sur une soixantaine d'années, mais il est important de l'évoquer avec précision. Pour résumer, l'idéologie communiste soviétique s'est dotée d'un puissant levier d'autorité sur la création, en général, et sur la musicale en particulier. Il s'agit, pour cette idéologie, de chanter avant tout la louange du peuple, uni dans le bonheur sans nuages, et pour ce faire, utiliser un langage accessible à tous, non entaché de formalisme, entre guillemets, et facilement mémorisable par tout un chacun. Le bras séculier de cette nouvelle doxa en est la trop célèbre Union des compositeurs soviétiques. Elle doit veiller au strict respect de ses règles et, bien entendu, redresser et réprimer le coupable d'infraction. Chacun a en mémoire les déboires du jeune Shostakovich avec ses premières symphonies ou opéras, on songe par exemple à Lady Macbeth, tombant sous le coup des violents anathèmes des années 30. Il faut d'ailleurs ajouter que ce refus du soi-disant formalisme et de la musique desséchée est plus ou moins dans l'air du temps, aussi à l'Ouest. Un compositeur aussi peu suspect de connivence avec l'idéologie communiste, Arthur Honegger, affirme dans un entretien du début des années 50, j'ouvre les guillemets, « La musique doit changer de public, devenir droite, simple, de grande allure. Le peuple se fiche de la technique et du fignolage. » Propos cité dans la revue Le Point en mars 54, un numéro spécial sur « Aspects de la musique contemporaine ». Il convient cependant de noter que le terme de réalisme n'est pas utilisé par Honegger. En revanche, on trouve ce terme à l'affiche d'une manifestation publique de l'Association française des musiciens progressistes intitulée « Contribution à un nouveau réalisme en musique », où figurent l'Alexandre Nevski de Prokofiev et la cantate des forêts de Chostakovitch, présentée par Serge Ligue en personne en mars 1951. Revenons à notre auteur. En rappelant les œuvres de cette période d'affiliation à la doctrine, dont les titres sont bien évocateurs d'une certaine couleur idéologique, Petite cantate des couleurs, Les vendeurs d'indulgence, Prière pour le premier jour de l'été. Précisons aussi que certaines partitions seront exécutées dans les pays communistes. Son poème symphonique Pour un poème captif, créé à Prague sous la direction du célèbre Karl Anserl, est composé à l'occasion de la campagne pour la libération du poète turc Nazım Hikmet. Quant au concerto pour piano numéro 1, puisque les autres ont été détruits, créé en 1954 et à ne pas confondre avec celui datant de 1946, c'est la partition la plus importante de cette période et le compositeur lui gardera son estime. Inutile d'ajouter que l'héritage de Leibowitz, même revu et corrigé par la plume alerte et transparente de Serge Nigg, a disparu de sa pensée officielle et probablement de son horizon intime, comme totalement inconciliable avec les données du jdanovisme ambiant, même filtré par le style français. Serge Nigg quittera le parti en 1956, au moment de l'invasion soviétique en Hongrie. Sa prochaine œuvre, un concerto pour violon, créé par Christian Ferras en 1960, esquissera les lignes d'une nouvelle esthétique, plus originale et comme délivrée, une sorte de synthèse des expériences précédentes est en marche. L'acquis indéniable des années rigoureuses se fondera dans un nouveau moule plus adapté à une expression personnelle. Si l'œuvre de Nigg à l'aube des années 60 paraît toujours marquée par les influences, voire les interférences littéraires, poèmes d'Éluard, de Mallarmé, d'Artaud, évocation de Villiers de l'Isle-Adam avec les visages d'Axel, il n'en est pas moins caractérisé par un goût du symphonisme pur, même à travers des partitions de dimensions assez modestes. C'est que Nigg est un virtuose de l'orchestre. L'attestent les compositions commandées par les orchestres français, surtout de la radiodiffusion, c'est qu'à l'époque, les chefs n'hésitaient pas à embarquer dans leur bagage des partitions contemporaines significatives au cours des tournées internationales. Ce fut le cas notamment pour son œuvre « Millions d'oiseaux d'or », créée en 1980 par Michel Plasson et l'Orchestre du Capitole de Toulouse, à Boston, dans le prestigieux Symphony Hall. Sur cette œuvre, voici ce qu'écrit le critique Jacques Longchamp, dans Le Monde du 13 décembre 1981. Guillemets. La souplesse, l'élégance de cette musique tendue vers une beauté rayonnante s'exprime à travers une orchestration idéale où tous les instruments dominent tour à tour et se fondent dans le bonheur comme les dauphins jouant avec les vagues de la mer. Fermez les guillemets. Les titres s'enchaînent assez régulièrement depuis Jérôme Bosch Symphonie, 1959, considéré par certains comme son chef-d'œuvre, jusqu'au Faste de l'imaginaire en 1974, en passant par les visages d'Axel, commande du Festival de Besançon, Fulgure, déjà cité, Mirrors for William Blake de 1978, et plusieurs œuvres concertantes. À propos des fastes de l'imaginaire, voici ce qu'il écrit en manière d'introduction. Ici, tend à s'exprimer en une rigoureuse structure symphonique, l'apparat de fêtes secrètes, un jeu d'images peuplant un univers poétique personnel, nourri d'éclats ou voilé de mystères, le luxe irréel de fastes impossibles. On notera au passage l'élégance de plume et l'acuité de la formulation de l'auteur. C'est à travers ces ouvrages-là que s'affirme en effet son langage le plus personnel, certes toujours marqué par l'atonalisme postériel de la première époque, mais au service d'une narrativité lyrique et expressive, qui emprunte sa facture tout autant à l'imaginaire expressionniste d'un Schoenberg ou d'un Berg qu'aux couleurs incontestablement françaises d'un orchestre irradié de lumière qui porte sa marque de fabrique comme l'atteste ce fragment que je vous fais écouter à présent, tiré de Millions d'oiseaux d'or. À propos de la possible influence de Schoenberg, il m'est apparu lors de l'étude de ses partitions symphoniques un détail significatif de plume. Nieg utilise systématiquement les indications graphiques inventées par le maître viennois pour mettre en relief les voix principales et secondaires avec un grand H ou un grand N. Ces indications ne relèvent d'aucune pédanterie. Elles sont au contraire une aide appréciable pour le chef d'orchestre qui peut facilement attirer l'attention des musiciens tout autant qu'une nuance forcément relative, ou qu'une liaison de phrasé. La forme concertante a, elle aussi, retenu toute son attention, donc. Du premier concerto pour violon de 57 jusqu'au deuxième pour alto, créé en 2000 par le jeune violoniste et altiste Raphaël Oleg, en passant par un deuxième et important concerto pour piano, créé au Festival de Strasbourg en 1971, par l'excellent Bernard Flavigny. J'ai eu moi-même l'occasion heureuse de diriger ces Mirrors for William Blake, qui s'intitule Symphonie concertante pour piano et orchestre, avec le Nouvel Orchestre Philharmonique et l'auteur lui-même au piano, lors de sa création le 25 octobre 1979 à Paris. C'est peut-être le moment d'évoquer les rapports amicaux que nous eûmes au cours de ces années 70-80. J'avais fait sa connaissance assez jeune par l'intermédiaire de Louis Saguère, compositeur aussi compétent et subtil que méconnu, dont il avait été le compagnon de route au sein de l'Association des musiciens progressistes, ainsi que ma consoeur Betsy Jolas, ici présente, et mon confrère académicien Jean Prodromides, que je salue au passage, mais aussi de personnalités disparues comme Yanis Xenakis, fraîchement arrivé de Grèce, et Joseph Kosma. Nous nous étions quelque peu perdus de vue avant de nous retrouver, géographie estivale oblige, dans la Provence luberonnaise, où il possédait une maison non loin de Gordes. Nous avons alors repris une relation amicale des plus chaleureuses. J'admirais sa culture éblouissante, sa spontanéité intellectuelle, son sens de la drôlerie et de la farce. Certes, nous évitions les sujets qui fâchent. Il s'était éloigné de la création contemporaine internationale la plus radicale et ne tenait pas à l'évoquer. Je pressentais les affrontements et restais, quant à moi, discret sur le sujet. Avec le recul, j'ai le sentiment que Serge Nick s'était exaspéré par une forme de désinvolture, pour ne pas dire plus, dont témoignaient certains compositeurs, justement radicaux, par rapport aux instruments, souvent ignorés dans leur génie propre, ou maltraités par l'inexpérience ou le désir de provocation. J'aurais sans doute partagé son indignation. N'affirme-t-il pas, lors d'un entretien réalisé au début des années 2000, « Connaissez-vous quelque chose de plus triste que le n'importe quoi, de plus avilissant que l'étalage rudimentaire de sentiments primaires au moyen d'une technique sommaire ?» Fermez les guillemets. Question on ne peut plus typique de la part de ce perfectionniste. Hormis quelques non-dits, aucune entrave donc à nos bonnes relations, ce qui l'amena à me proposer de diriger cette nouvelle œuvre à l'époque où j'étais en responsabilité de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Par la suite, il me fit cadeau de sa partition ultérieure, dont nous venons d'entendre un fragment, avec une charmante dédicace. Si parallèlement à la musique pure, comme on dit, Serge Nick fut peu sollicité par le cinéma, deux seules musiques de films à son catalogue pour Yves Ciampi et Alain Cavalier, il consacre en revanche du temps à écrire pour la radiodiffusion. On connaît l'extraordinaire essor des musiques dites d'illustration musicale qui furent lancées à la Radio Nationale sous l'impulsion conjuguée de Jean Tardieu et d'Alain Trutat, avec la complicité merveilleuse et attentive d'Henri Dutilleux, qui en fut le premier responsable dans les années 50. Nig signera au moins une douzaine de partitions sur des textes les plus variés, d'Albert Camus à Philippe Soupeau, la dernière en date étant une certaine histoire d'œuf d'après Blaise Cendrars en 1963, partition qui donnera lieu plus tard à une version chorégraphique à l'Opéra de Nantes. Quant à l'étrange aventure de Gulliver à Lilliput, elle obtint en 1958 le prix Italia de la création radiophonique. Un mot sur la musique de chambre. L'essentiel est dédié au piano, trois sonates, deux brefs cycles assez tardifs, tumulte et deux images de nuit. Au violon et piano, une sonate, son unique quatuor à cordes, lui, a été créé en 1983. On souhaiterait qu'il fût repris. Le compositeur a aussi occupé par deux fois des fonctions officielles. Tout d'abord, celle d'inspecteur des théâtres lyriques français, de 1967 à 1982, dépendant du ministère de la Culture. Il sera par la suite nommé au Conservatoire de Paris, rebaptisé aujourd'hui CNSMD, à la classe de composition de 1978 à 82, puis à celle nouvellement créée d'instrumentation et d'orchestration. Ce dernier enseignement semble avoir rendu particulièrement heureux d'après les témoignages de ses anciens élèves, parmi lesquels il me plaît de citer notre nouveau confrère Thierry Esquèche, ici présent. Rappelons qu'il fut élu à l'Académie des Beaux-Arts le 1er mars 1989. Permettez-moi de conclure ce rapide panorama d'un créateur aussi singulier qu'attachant par un vœu tout personnel. L'époque présente se préoccupe peu du passé récent. Elle lui préfère la muséographie de l'ancien, certes gratifiante, et l'adoration de valeurs toujours nouvelles qui contribuent à l'effacer. Il me semble qu'il serait tout à fait opportun et même urgent de mettre en perspective, par une programmation équilibrée et soigneusement sélectionnée, les musiques de cette immédiate après-guerre, dans un souci de représentation, analogue à celui qui prévaut de nos jours, avec bonheur, à la mise en place des grandes expositions rétrospectives d'artistes du XXe siècle. Les musiques contemporaines ont besoin d'être exposées, c'est-à-dire confrontées, à l'instar des arts visuels, les unes aux autres, dans une démarche de mise en relief historique. Nul doute qu'une œuvre comme celle que je viens d'évoquer à grands traits devant vous trouverait sa place, naturelle et éminente, dans une telle rétrospective. Celle-ci, à n'en pas douter, mettrait en évidence les grandes lignes d'une certaine forme d'unité, mais aussi les traces des hésitations et des fractures stylistiques ou idiomatiques, compte tenu des influences subies, aussi bien politiques que proprement musicales. Il serait urgent de ne pas oublier, avec le temps qui passe, les saveurs particulières, malgré ses errances ou ses excès, d'un art de transition essentiel à la compréhension du XXe siècle. Aucune civilisation n'a réussi à créer, à partir des sons, ce miracle qu'est l'histoire de la musique européenne, avec toute sa richesse de forme et de style. Ce cri spontané de Milan Kundera, dont l'immortalité, je pense l'avoir inconsciemment lancé lorsqu'à l'âge de 12 ans, je décidais que je serais compositeur. C'est l'immense flux de la musique, et d'abord l'occidentale, qui m'arrivait en bourrasque par orchestre interposé, lorsque, alors à l'orée de l'adolescence, j'essayais naïvement d'imiter les maîtres. Cette passion du son organisé ne m'a plus quitté et a, pour ainsi dire, conduit ma vie, même si je suis conscient ô combien des chemins de traverse et des impasses que je n'ai su éviter. L'architecture en mouvement de la symphonie, telle me semblait être le clavier où s'exerce tout compositeur. Il reste à trouver l'harmonie et à fixer le temps vrai, comme Messiaen le disait, de l'harmonie vraie, de ce qui apparaît d'abord chaotique et discontinu. Un vrai défi en plein XXe siècle où tant de techniques s'offraient aux compositeurs de l'après-guerre, les uns tournés, selon moi, vers le passé, certes brillants mais révolus, les autres avant-gardistes par leur position rigoriste, voire parfois rigide, quant à la syntaxe sonore à mettre en œuvre. Le choix ne me posa aucun problème, même si, au fil des années, et bien naturellement, la passion pour une rigueur jugée envahissante fit place à un métissage harmonique plus lissé, plus accueillant aux intervalles jadis onni et probablement plus rassurant pour l'auditeur. Aujourd'hui, dans une phase avancée, pour ne pas dire tardive, de mon travail, je ne renie rien de ces choix rigoristes de mes débuts et mesure la distance franchie avec philosophie. Il m'est toujours aussi utile de recevoir telle remarque, précise ou intuitive, concernant tel ou tel détail d'un ouvrage, ou de recevoir une amicale critique, souvent tout à fait justifiée. Cet aller et retour avec mes amis, musiciens ou non, ou avec le public qui veut bien se donner la peine de m'écouter, procure un savoureux mélange de satisfaction inquiète et d'encouragement à aller plus loin. C'est toujours ainsi que j'ai vécu, pour ma part, l'entreprise d'un nouveau travail, d'une nouvelle réalisation. Il me reste à adresser quelques remerciements. J'aimerais ainsi rendre hommage à mes aînés et aux maîtres qui m'ont ouvert au monde et au métier de la musique. En tout premier lieu, à mon professeur de philosophie, Jacques Muglioni, qui m'a enseigné la rigueur de la pensée. à Olivier Messiaen et Darius Milhaud qui, en m'accueillant dans leur classe, m'ont ouvert un monde pas seulement de sons et de couleurs, mais aussi d'amitié durable. À Pierre Boulez, qui m'a fait confiance très tôt, à Pierre Wozlinski et Maurice Fleuret, qui chacun en leur temps m'ont confié de grandes responsabilités, avec générosité et clairvoyance, à mes nombreux confrères, consoeurs et amis, dont certains sont ici, dont le professionnalisme artistique ou administratif m'a nourri et encouragé, ma femme et mes enfants qui m'ont épaulé chacun dans leur rôle, sans oublier ma sœur, à qui je dois probablement le goût pour la philosophie, et mes parents disparus il y a des décennies et qui, dans les temps difficiles de l'après-guerre, ont su adouber ce qu'ils percevaient comme étant ma vocation avec abnégation et soutien affectueux. Enfin, qu'il me soit permis d'associer à cet hommage les noms de trois grands chefs d'orchestre qui ont particulièrement marqué ma vie en leur temps. Les deux premiers sont justement célèbres. Georg Scholti, qui me commanda d'un espace déployé pour l'Orchestre de Paris, et il lui a été mérité de le reprendre trois fois à la tête de son magnifique orchestre de Chicago. Sergiu Celibidache, qui, sans diriger ma musique, m'entoura de son ombre majestueuse et quelque peu autoritaire, et avec qui j'ai eu le bonheur de conversations au fond sur la musique et sur son thème de prédilection, la phénoménologie de la musique. Enfin, Rolf Reuter, moins connu du public français, chef allemand et surtout saxon, comme il aimait à le préciser, de la RDA, nourri de la grande tradition. Il fit notamment l'effort de faire connaître ma musique dans des villes comme Weimar, Leipzig et Berlin, et j'entretins avec lui une amitié inaltérable de 30 ans. Il me reste aussi à vous remercier, chers confrères, de l'honneur que vous m'avez fait en m'accueillant parmi vous dans cette assemblée. Je vous remercie.